l'atelier.
Moi je dis rien moi. Rien à dire.
On apprend à faire de la radio sur Radar.
L'atelier.
L'atelier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Troisième partie de notre série de podcasts consacrée à l'espace avec le service jeunesse de la ville de Fécamp au sein de l'école Albert Camus. Je vais y arriver, j'ai mes lunettes qui sont coincées dans mon casque, mais c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est content de retrouver ce nouvel atelier consacré à l'espace. On a la tête dans les étoiles depuis 3 jours et on travaille tous les matins à vous chercher des sujets et à rédiger des chroniques autour de tous ces thèmes qui sont tout aussi merveilleux et qui nous font voyager un petit peu. On s'occupe dans les vacances intelligemment avec tous les enfants. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde autour de la table avec pas mal de sujets à aborder. On a la compagnie autour de cette table de Audrey, Nathan, Louane, Elina, Matisse, Kaïsa, ou Kaïsa, je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va voir ça après, Anaé, Matisse et Nolan, qui ont préparé donc une grosse émission. On va parler de plein de choses. Alors, justement, on va commencer par faire le tour de la table en accueillant dans un premier temps Nathan. Salut Nathan.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Je vais très bien.
Tu vas très bien et ça nous fait plaisir. Tu as préparé un sujet sur quoi aujourd'hui ?
J'ai préparé sur un sujet de la NASA plus l'ISS.
Ok, la NASA et l'ISS, et c'est un sujet que tu as préparé en compagnie d'Audrey, c'est ça ?
Exactement.
Ok, on va t'entendre dans quelques instants, on va continuer notre petit tour de table avec le micro vert cette fois-ci. Et Elina, bonjour.
Bonjour.
Oh, je ne t'entends pas, bonjour, bonjour, allô, allô ?
Bonjour.
Ah oui, c'est mieux là. Alors Elina, toi tu as préparé un sujet qui s'appelle ?
La fusée.
La fusée. Savoir comment ça fonctionne, etc. On va s'intéresser au côté technique de comment on part dans l'espace. Et c'est un sujet que tu as préparé avec Louane.
Oui.
Oui. Eh bien, on va écouter ça dans quelques instants aussi. On a Kaïsa qui est juste à tes côtés. Alors, c'est bien Kaïsa ?
Oui, c'est Kaïsa.
Oui, c'est Kaïsa. OK. Et toi, tu as préparé un sujet sur quoi ?
Sur Thomas Pesquet.
Sur Thomas Pesquet. Et tu l'as préparé avec ?
Avec Mathias.
Mais surtout beaucoup toute seule, j'ai l'impression. Ça a été compliqué ce matin ?
Un petit peu.
Bon, mais vous allez tous bien vous en sortir, t'inquiète pas, ça va le faire. Et puis, on s'est intéressé à des sujets encore un petit peu plus vastes, parce que l'univers, c'est bien, mais alors, on imagine plein de choses autour de l'univers, de l'espace, etc. Et pour en parler, on a Anaé.
Bonjour.
Salut Anaé, ça va bien ?
Oui.
Ouais, alors toi, tu vas nous parler de quoi ?
Les films.
Les films, et surtout, je crois que c'est un truc spécial sur les extraterrestres.
Oui.
Quelque chose comme ça, ok. Et puis, juste à tes côtés, il y a Matisse. Tu vas lui passer le micro. Voilà. Alors,
bonjour.
Matisse, salut.
Salut.
Ça va bien ?
Oui, et toi ?
Oui, ça va toujours, moi. Toi, tu as préparé quelque chose. Alors, vous, vous êtes 3 rédacteurs chroniqueurs, en fait, et vous avez préparé des trucs sur des films. Alors, on a les extraterrestres. Toi, tu es du côté de quoi ?
Star Wars et les films pas réels.
Alors, les films irréels, en tout cas, tout ce qui est science-fiction, on va dire, et puis majoritairement Star Wars, parce que ça t'a bien botté. Et puis, on a Nolan pour terminer. Nolan, salut.
Salut.
Ça va bien ?
Oui, et vous ?
Ça fait toujours bizarre quand on s'entend dire vous. Oui, ça va très très bien. Alors toi, t'as préparé un truc sur les films, mais comment ?
Qui sont réels.
Voilà, la réalité de ce qui peut se passer dans l'espace, dans les films. Alors la manière dont c'est traité, le côté pas réel, le côté science-fiction, et puis le côté totalement... cartésien, enfin très très réel quoi. Donc on va voir ça tout au long de cette émission. On va commencer. On a fait ce tour de table, donc on va commencer par toi, Nathan, et tu vas nous parler de la NASA et de l'ISS. On t'écoute, c'est à toi.
Alors, que veut dire NASA ? La NASA veut dire National Aeronautics and Space Administration. Pourquoi la NASA a été créée ? La NASA a été créée le 29 juillet 1958 pour administrer et réaliser des projets. Le créateur de la NASA est Dwight d'Eisenhower.
Ah, il était compliqué celui-là.
Oui.
Mais c'est bien, tu l'as eu. Vas-y, continue.
Qu'est-ce que la NASA a fait depuis sa... Qu'est-ce que la NASA a fait depuis sa...
Sa création, peut-être ?
Création.
Non, ouais.
Le 29 juillet 1958, la NASA joue mondialement un rôle dominant dans le domaine du vol spatial habité, de l'exploration du système solaire et de la recherche spatiale. La NASA a été créée aux États-Unis. Que fait Thomas Pesquet à la NASA ? Il effectue deux sorties et extravéhiculaires.
Ouais, c'est ça.
De 6 heures pour des missions de maintenance de la station spatiale internationale en juillet 2020. Il est sélectionné pour une seconde mission à bord de la capsule Crew Dragon par l'entreprise américaine SpaceX, qui s'est associée à la NASA pour proposer des vaisseaux récupérables. Voilà.
Eh ben merci Nathan, c'est très très complet. Alors là, tu nous as parlé un petit peu de Thomas Pesquet, tu nous as parlé un peu de la NASA, un peu de l'ISS, on a appris plein de trucs. Est-ce que vous avez des questions par rapport justement à ce qui vient d'être dit ? Alors attends, il y a Mathis qui a levé la main. Est-ce que tu peux donner le micro à Mathis, s'il te plaît ? Je précise au passage à nos auditeurs que on se passe évidemment les micros, mais on se gèle les mains. On a tous nos masques. Donc à chaque fois qu'on parle dans les micros, on a nos masques qui protègent chaque bonnette, etc. Donc vous inquiétez pas, tout est fait de manière à ce que voilà, cette émission soit Covid-compatible, comme on dit. Donc Mathis, excuse-moi, j'ai coupé la parole, mais c'était important de le préciser. Donc vas-y, question. Alors, ça marche pas, oui.
C'est pas grave. Nathan, est-ce que tu sais quand Thomas Pesquet a commencé pour la NASA ?
Ah, alors ça, je pense qu'on va aborder ce sujet-là du côté de Keïsa.
Thomas Pesquet.
Pardon ?
Je pense qu'on sera à Thomas Pesquet.
Ouais, je pense qu'on aura des réponses, mais peut-être que Keïsa n'a pas la réponse encore pour l'instant. On va voir dans la chronique de Keïsa si la réponse est dedans. Alors, est-ce que vous connaissiez, vous, la NASA ?
Oui, j'en ai entendu parler.
T'en as entendu parler ? Toi, t'en as entendu parler aussi un peu ?
Oui, à la télé.
Alors, vas-y, donne un peu de micro là.
J'ai jamais
entendu parler de ça. D'accord. Et vous connaissiez un petit peu tout ce qu'a présenté Nathan à l'instant ?
Un petit peu.
Un petit peu, ouais. Alors, ouais, là, il y a des difficultés de passage de micro, mais on va y arriver.
Je connaissais la NASA, mais celui qui l'a fabriqué, je connaissais pas du tout.
On connaît pas, bah ouais. On a du mal à mettre des noms sur les gens qui fabriquent un petit peu toutes ces choses-là. T'avais une question peut-être ? Non, pas du tout. Alors, est-ce que ça a été compliqué de trouver des informations justement sur la NASA ?
Non, il fallait juste faire des recherches sur Internet. Après, bah non.
Ouais, Internet, c'est... la NASA, c'est assez facile de trouver des informations là-dessus. Surtout qu'en plus, l'ISS, c'est en plein dans l'actualité. Il y a Elon Musk qui vient se greffer à tout ça par rapport à SpaceX. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'informations là-dessus. Donc c'était pas trop compliqué. Merci beaucoup, en tout cas, Nathan, pour l'ensemble de ces petites précisions et pour la qualité de ta chronique. On va continuer tout de suite avec Elina, qui va nous parler des fusées. Et on remercie Audrey aussi au passage pour la rédaction commune de cette chronique. On passe donc à Elina avec les fusées, une rédaction effectuée par Elina et Louane ensemble. C'est à toi.
La fusée a été créée... Comment a-t-elle été créée ?
Ah, je sais pas, moi, moi qui l'ai écrit. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas ?
Je me suis trompé de question.
Tu t'as trompé de question. Alors, à ce moment-là, moi, ce que je te propose, c'est de pas forcément poser des questions, mais juste donner les réponses. Comme ça, tu vas peut-être moins t'embrouiller.
La fusée, on l'a fait fonctionner pour voir ce qui se passe dans l'espace.
Ouais.
Elle a été lancée en 1926 par le russe Konstantin Tsiolkovsky.
Ah, décidément, les noms, hein. C'est compliqué. En 1926, la première fusée, tu m'as dit ?
Oui.
Waouh ! Après, vas-y, vas-y.
Elle a été lancée à 12 mètres de haut.
Ah, pas mal.
Et sans lanceur, la fusée ne peut pas décoller.
Eh ouais, c'est ça le problème.
Elle ressemble à une pièce de feu d'artifice.
Ouais, c'est comme un peu les fusées quand on allume au 14 juillet les pétards. Sauf que c'est un petit peu plus gros. Voilà, puis il ne faut pas que ça pète à la fin.
Ouais.
Moins drôle, hein. Ok, est-ce que tu as fait le tour un petit peu du truc ?
Oui.
Ouais, alors là ça a été court parce que je crois que toi ce matin ça a été compliqué d'aller chercher des informations.
Oui.
Ouais, en fait on n'avait que des dictionnaires, c'était difficile de se répartir un petit peu l'accès à internet pour chacun, donc ça a été difficile. Mais par contre tu as appris un truc, c'est que la première fusée est partie en 1926, 12 mètres de haut. Est-ce que vous pensez que c'est super haut 12 mètres de haut? Pour une fusée ?
Bah oui.
Au départ. Sachant que maintenant, on va sur la Lune.
Bah, je pense qu'elle a dépassé l'atmosphère terrestre.
Ah non, 12 mètres de haut, non. 12 mètres de haut, c'est un immeuble de, on va dire, combien 3 étages, 4 étages ?
D'un immeuble ?
Bah oui.
Ouais, quand même, c'est pas beaucoup.
Ah bah non, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc en 1926, par contre, c'était un exploit. C'était la première fois qu'on arrivait à envoyer un truc aussi haut. Donc, c'est quand même assez balèze pour l'époque.
Puis après, on a été sur la Lune.
Et après, on a été sur la Lune, il y a eu toute une histoire. Alors, c'était très, très, très technique. Comment vous pensez que c'est fabriqué des fusées ? Parce que là, tout à l'heure, elle nous a dit, les fusées, elles partent dans l'espace. Et comment t'as fini ton truc ? Pas sur les feux d'artifice, mais t'as dit, ouais, on ne peut pas les récupérer, je crois.
La fusée, elle ne décolle pas sans lanceur.
Voilà, elle ne décolle pas sans lanceur. C'est quoi un lanceur, à votre avis ? Nathan ?
C'est une sorte de plaque, à mon avis, qui lance la fusée, non ?
Ouais, c'est comme, tu penses que c'est comme un lance-pierre, tu vois ?
Oui, voilà.
Une fronde. Ouais. Comment tu vois le lanceur, toi ?
En fait, c'était pour poser une question.
Alors, attends, on va répondre déjà à celle-là. Comment tu vois le lanceur, déjà ? Comment t'imagines que la fusée, elle est lancée ?
Moi, j'imagine que c'est un gros ressort.
C'est un gros ressort ?
Avec une grosse plaque de fumée.
Alors, attends, parce que t'as pas de micro, vas-y. Donne-lui le micro et vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Je veux juste dire une question.
Ah, toi aussi, tu veux dire. Alors, il y a plein de questions. Alors, vas-y, on va faire la série des questions. Go.
Je pense que une fusée, c'est créé avec du métal.
Oui, ça déjà, heureusement qu'on en a. C'est plutôt pas mal. Toi, tu avais une question aussi, Mathis.
Est-ce que tu sais comment les fusées décollent ?
Bah avec un lanceur.
Voilà, c'était savoir comment ça marche, le lanceur.
Non, mais les flammes, quand c'est dans le ciel, à un moment, il y a des flammes.
Comme un feu d'artifice, comme les fusées d'un feu d'artifice.
Ah, en fait, on en met plein.
En fait, quoi ?
On met plein de feux d'artifice, on démarre.
Alors, pas forcément.
Nolan,
toi, tu dis rien. Est-ce que tu as des questions ? Non ? Est-ce que tu as des questions aussi ? Alors, Nathan, tu avais une question, toi.
C'était pour dire comment sont fabriquées les fusées.
Ouais.
Alors, moi, je pense que les fusées sont fabriquées quand, par exemple, il y a d'autres, d'autres bouts de fusées qui sont encore dans l'espace. Quand ils retombent,
ouais.
Bah, du coup, on les recycle et on refabrique des fusées avec.
Ah, ce serait super si ça pouvait être ça. Alors, tu vois, le gars que tu as évoqué tout à l'heure, là, Elon Musk, lui, il a inventé la fusée qui revient. C'est la première fois qu'on fait ça depuis l'histoire des fusées. Avant, on lançait les fusées, elles se perdaient dans l'espace et on a parlé dans le podcast d'hier de la pollution dans l'espace autour de la Terre, tous les satellites et les bouts de fusées qui traînent. Ça, c'est très très dangereux. Il y a des trous dans l'ISS à cause de ces machins-là. Alors, j'ai une question là-bas. Viens, mademoiselle, viens avec nous. Parce que ça fait partie des rédacteurs. Rappelle-moi ton prénom.
Louane.
Louane, donc toi, tu as participé à la rédaction sur les fusées. Tu vas peut-être nous éclairer. Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire ?
J'ai une question.
Ouais, vas-y.
Mais du coup, il y a une fusée qui peut revenir ou pas ?
Est-ce qu'il y a une fusée qui peut revenir ou pas ?
Oui.
Alors justement, c'est ce qu'on évoquait avec Nathan à l'instant, c'est qu'il y a Elon Musk qui vient depuis quelques années là, qui invente des fusées qui reviennent. Et il y a un autre milliardaire américain dont je ne sais plus le nom, qui est le patron de Virgin, qui fait ça aussi. Juste pour répondre sur la question des lanceurs, en fait, c'est très simple. On met, vous imaginez, une espèce de gros réservoir avec plein d'essence dedans. De l'essence, de l'essence, de l'essence, de l'essence, de l'essence, de l'essence. Et puis, juste au-dessus, on met une petite capsule. Voilà, alors moi, pour les auditeurs, vous ne voyez pas, mais je suis en train de matérialiser ça avec des gobelets et des bouchons de stylo. Mais en gros, vous avez un gros réservoir, une petite capsule qui est posée au-dessus. Et puis, on met le feu, on fait un petit trou en dessous, on met le feu en dessous du réservoir. Donc comme ça, l'essence, elle coule et elle prend feu. Elle éjecte tout l'ensemble du bloc, donc le réservoir plus la fusée. Ça part, d'accord ? Et ensuite, alors le lanceur, en fait, c'est ce qui tient la fusée droite au départ. Parce qu'il y a une structure, parce que sinon, la fusée, elle va tomber. Donc, on la met bien droite, il y a le lanceur qui la tient. Et dès qu'on met le feu, clac, on lâche, la fusée, elle décolle. Et puis, une fois qu'elle est arrivée au-dessus de l'atmosphère, c'est-à-dire dans l'espace, le réservoir, il est vide. Donc, il va tomber, on va le lâcher. Il va retomber sur la Terre, il va prendre feu, il va se détruire. Hop, il n'existe plus. Et la petite capsule, elle est dans l'espace et elle flotte. Voilà. Et là, on est dans l'espace et on rejoint l'ISS. Ça va ou pas ? Ouais.
Les fusées qui sont dans l'espace, qui ne sont pas revenues, est-ce qu'elles vont revenir un jour ?
Eh bien non, malheureusement, elles sont complètement perdues. En fait, les fusées, elles, comme je disais, il y a tout le réservoir, il tombe et il est détruit quand il retombe dans l'atmosphère, en fait. Donc, soit il est détruit, soit il reste en orbite et ça fait une espèce de déchet qui traîne. Il y a encore une question, puis après on va passer au sujet d'après. Ouais, Louane.
Mais du coup, ça fait combien de temps qu'ils sont dans l'espace, les autres fusées qui ne reviennent pas ?
Ah bah il y en a... la plupart, en fait, elles ont été détruites en retombant dans l'atmosphère. Ce qui ne revient pas, en fait, c'est les satellites. Les satellites, il y en a, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils tournent autour de la Terre. Et puis, ils ne servent plus à rien, et jusqu'à ce qu'ils retombent. Voilà. Et puis, y en a des fois, ils se rentrent dedans, ils s'éclatent, et ça fait des petits débris qui flottent dans l'espace, et ça, ceux-là, on ne les retrouvera jamais. On va essayer d'avancer un petit peu dans notre émission, avec une petite pause jingle, et puis on va retrouver tout de suite après Keïsa et son sujet sur Thomas Pesquet.
Radar. Radar.
C'est la classe.
Et ouais, c'est la classe de parler de l'espace sur radar au sein de l'école Albert Camus en partenariat avec le service jeunesse de la ville de Fécamp. On est sur le thème de l'espace, on est dans les fusées, on est avec Thomas Pesquet, on est dans des trous noirs, on est dans des soleils, on est un petit peu partout. On est loin, 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 loin. Et là, on a parlé de la NASA, donc des constructeurs des voyages dans l'espace. Ensuite, on a parlé des fusées qui nous permettent de partir dans l'espace. Et là, dans l'espace, on crée des stations spatiales orbitales. Et dans cette station spatiale orbitale, il y a un monsieur qui vient de Normandie, qui s'appelle Thomas Pesquet, et qui est parti rejoindre l'ISS dont on a parlé tout à l'heure avec Nathan. Et Keïsa va nous parler de Thomas Pesquet. C'est à toi.
Comment Thomas Pesquet est parti dans l'espace ? Thomas Pesquet décolle le 17 novembre 2016 à 20h20 UTC à bord d'un vaisseau Soyouz. Le Soyouz MS-03 est placé en orbite. Une fusée Soyouz bivait depuis le cosmodrome de Baïkonour pour Gaza.
Ça va ? C'est compliqué ces mots-là, Baïkonour, Kazakhstan, oui. Etc. Est-ce que tu vois de quoi ça parle un petit peu ?
Non.
Parce que voilà, vous avez tous fait des recherches, vous avez copié des trucs, etc. En fait, le Kazakhstan, c'est un petit peu en dessous de la Russie. Il y a une station qui s'appelle Baïkonour et c'est là qu'il y a des lanceurs de fusées. Et on envoie des fusées à cet endroit-là. Vas-y, je te laisse continuer.
Comment va-t-il dans l'espace ?
Ah.
Il effectue deux sorties et sera... extravéhiculaire et de 10 heures pour des missions de maintenance de la Station Spatiale Internationale. En juillet 2020, Célia Ostium pour une seconde mission à bord de la soucoupe de la capsule Crew Dragon construite par l'entreprise américaine SpaceX. Pourquoi Thomas Pesquet va sur l'ISS ?
L'ISS, ouais.
L'ISS. La station spatiale internationale dans laquelle Thomas Pesquet est confiné depuis le 23 avril, va être équipée de panneaux solaires. Ces deux panneaux vont permettre à l'ISS de bénéficier.
Alors, je vois la fin de la feuille de loin.
30% d'énergie supplémentaire et d'avoir le courant jusqu'en 2030.
Ah, du courant jusqu'en 2030. Alors, il y a plein de trucs, il y a plein d'informations. C'est un petit peu compliqué tout ça. Alors, c'est pareil, hein, vous avez eu du mal au départ et puis après, vous avez eu un accès à Internet qui vous a permis d'avoir un petit peu l'ensemble des informations que vous avez chopées. Donc, en fait, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire une sortie, comment t'as dit, sortie extravéhiculaire?
Oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Non,
est-ce que tu sais ça, ce que c'est?
Non.
Eh bien, Thomas Pesquet, la station internationale, l'ISS, c'est un véhicule parce qu'il se déplace dans l'espace.
Ok.
D'accord, c'est comme une voiture, mais de l'espace. Et il va faire une sortie extra-véhiculaire, c'est-à-dire qu'il va sortir de sa voiture pour faire des travaux de maintenance. Ça veut dire qu'il va réparer un peu la voiture là où il y a... des impacts ou là où il faut réparer des endroits, hop, il va sortir son tournevis et puis il va réparer des endroits où ça bidouille un petit peu. Et puis il va installer, comme tu l'as dit, des panneaux solaires pour que ils aient de l'électricité au moins jusqu'en 2030 grâce à ces panneaux solaires là. Alors il y a des questions. Ouais.
Comment l'ISS a été dans l'espace?
Ah, comment on a fait, à ton avis? Alors, est-ce que tu saurais répondre, Nathan? Parce que toi, tu nous as parlé de la NASA et de l'ISS. Comment on a fait, à ton avis, pour mettre une station spatiale dans l'espace, sachant que ça ne peut pas rentrer dans une fusée, c'est trop compliqué? Comment on a fait ça?
Je pense qu'avec tous les satellites qu'il y a sur... Dans l'espace, ils ont essayé de fabriquer une sorte de bâtiment.
Ah, tu vois, ouais, toi, t'es dans le recyclage à fond, quoi. Donc, ils auraient récupéré plein de satellites qui servent à rien pour faire des bâtiments. Et puis, c'est pas mal l'idée.
On les réunit.
Est-ce que t'as une idée, toi, du coup, Elina?
Non, mais c'est une question.
Alors, une question.
Comment Thomas Pesquet, il était à la fin? Il avait fait déjà un voyage dans l'espace et comment il était à la fin?
Il était très fatigué. C'est fatigant de voyager dans l'espace parce que tu travailles pas tes muscles. Donc, juste pour répondre à la question de comment...
Je peux?
Oui. Alors, notre ami Warren, que vous connaissez tous et que je ne présente plus.
Alors, dès qu'il est revenu, il était aussi plus grand. Quand on va dans l'espace, on grandit. Il avait pris, je crois, un truc du style 7 cm, un truc comme ça. Dans l'espace, dès qu'il est redescendu sur Terre, et il a dû repartir en fauteuil roulant, il ne pouvait plus marcher, tout ça.
Ah oui, parce qu'on ne peut plus se servir de nos muscles dans l'espace, on n'a pas besoin de s'appuyer ou de marcher ou de trucs comme ça, donc en fait, on a notre corps qui s'étire un petit peu, et puis on a les muscles qui se flétrissent. Je reviens sur la question, juste une petite seconde, sur comment on a fabriqué l'ISS. En fait, on l'a fabriqué comme un Lego, c'est-à-dire que dans la fusée, dans les fusées, à chaque fois, on a mis un morceau du vaisseau qu'on allait construire. On l'a emmené en l'air. On l'a laissé flotter. On est redescendu. On a remis un autre bout. Et puis, on l'a fabriqué petit à petit avec des pièces qu'on a emmenées à chaque fois. On a fait plein de voyages pour fabriquer l'ISS, en fait. Alors, ouais, des questions.
C'est une question. Sais-tu que fait Thomas Pesquet dans l'espace ou sur la Lune? Sais-tu pourquoi il va dans l'espace ou sur la Lune?
Alors, il va plus dans l'espace, en fait. Il va pas aller sur la Lune, là, pour l'instant. Ouais. Est-ce que tu sais? Tu te rappelles plus?
Ouais.
Alors, en fait, là, on l'a dit, il va réparer un peu l'ISS, il va poser des panneaux solaires, et puis il fait des expériences aussi scientifiques. Et il regarde certaines évolutions de plantes dans la pesanteur, il regarde la météo, il prend énormément de photos. Donc, il y a une mission scientifique aussi qui est... Ouais, vas-y.
Dès qu'il était petit, c'était son rêve d'aller dans l'espace.
Ouais, en plus. Alors, tu disais, peut-être il va aller sur la Lune. En fait, il est pressenti carrément pour aller sur Mars. Il aimerait bien aller sur Mars. Mais bon, ça, c'est encore une autre paire de manches. Alors, il y a une question depuis tout à l'heure, là, le bras, ça va, t'es pas tétanisé, c'est bon ? Vas-y.
Kaïsa, est-ce que tu sais si Thomas Pesquet est redescendu de l'espace à la Terre ?
Oui.
Alors, il est redescendu une fois, mais là, il n'est pas encore rentré de son voyage. Il est parti en juillet, tu nous as dit ?
Oui.
Et pour l'instant, c'est quand sa date retour ? Est-ce qu'on sait ? Non, on ne sait plus.
Non.
Bon, il va revenir.
C'est en 2030.
Il va revenir. Ok. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'ensemble. On va faire une petite pause musicale, les petits amis, parce qu'il y a un moment, hein, il va falloir qu'on se repose un petit peu, à boire un coup, tout ça, tranquille. Et puis, on se retrouve juste après avec Anaï, Mathis et Nolan qui vont nous parler des films dans quelques instants. Donc, pour l'heure, c'est Big Flo et Oli avec un titre... Ben forcément bien choisi, puisque ça s'appelle Sur la Lune. C'est tout de suite dans vos oreilles et c'est tout de suite sur Radar.
Un jour j'irai sur la Lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais, je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Un jour je serai fou, j'aurais fait le tour de la terre. J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurais assumer toutes mes fautes. Je sais, je suis différent, donc au final, je suis comme les autres. Un jour, je serai sage, j'aurai fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour, je serai mort, j'aurai fait le tour de mon âge. Une plaque avec mon nom. Une place dans les nuages.
Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire. J'aurais réglé mes problèmes. J'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour je serai moi-même. J'aurais trouvé le sourire. J'aurais réglé mes problèmes. J'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Radar.
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 Ça déchire.
Vous êtes bien sur Radar et on vient d'écouter Big Flo et Oli avec le titre Sur la Lune. On continue notre série de chroniques avec Anna et Mathis et Nolan qui vont nous parler de l'espace traité dans les films. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est possible dans l'espace? Qu'est-ce qui n'est pas possible au cinéma, etc. On va attaquer ces sujets-là et le premier sujet avec Nolan. Alors Nolan, est-ce que ça va bien?
Oui, ça va.
Bon, t'es prêt à nous parler de tout ça?
Oui.
Eh ben, on t'écoute. Vas-y. Bah. Mais si, on entend, regarde. Hop, voilà, c'est parce que j'ai pas mis le volume pour tout le monde, mais voilà. Alors, hop, c'est parti.
Bah, ces films s'attachent à que ce soit le plus réel possible.
Ouais, alors, oui, donc toi, t'es dans la partie choses qui se passent réellement dans l'espace, dans les films. Ok
oui.
Est-ce que tu peux nous citer un exemple, par exemple?
Comme le film Contact.
Alors, Contact, vas-y, raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est?
Pour le film Contact, une dame essaye de rentrer en contact avec des aliens grâce à des antennes très puissantes. Un jour, elle reçoit un message des aliens. Elle s'aperçoit qu'ils sont plus intelligents que nous et ils nous préviennent qu'on est en train de se détruire nous-mêmes.
Ok. Alors, la seule partie qui est, on va dire, pas vraiment possible, c'est... alors, pourquoi pas? On pourrait rentrer en contact avec des aliens. Le seul truc, c'est que pour l'instant, ça s'est pas avéré, ça n'existe pas. Par contre, les films là dont tu parles... Alors, il y avait d'autres films dont on avait fait une petite liste de films comme ça. Vas-y, est-ce que tu peux nous les citer vite fait? Ceux où t'as mis des R devant.
Gravity.
Ouais.
Apollo 13. Et Seul sur Mars.
Voilà, donc tous ces films-là, avec l'exemple que tu nous as cité, en gros, c'est des films dans lesquels le scénario a été fait avec des scientifiques, en fait, c'est ça, pour justement voir comment ça allait se passer, enfin comment ça pourrait se passer, et pas faire vraiment d'erreur, en fait. On s'est posé des vraies questions sur, si on lance une fusée, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du bruit dans l'espace? Est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller dans l'espace avec un vaisseau? Comment on pourrait survivre sur Mars? On se pose des vraies questions avec des scientifiques. Et alors, c'est pas forcément totalement possible, mais en tout cas, on s'approche de la réalité pour faire en sorte que ce soit le plus possible, en fait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu des films comme ça? Est-ce que vous connaissez ces films-là, Seul sur Mars ou des trucs comme ça?
Non.
Non, personne n'a vu de films comme ça?
Non, pas du tout.
Je crois que j'ai vu qu'un film dans l'espace, c'est Star Wars.
Ah, d'accord. Eh bien, justement, transition toute trouvée, ça va être Mathis qui va nous parler de ça. Alors, Star Wars, ça fait partie de la catégorie des films qui sont réels ou pas réels?
Pas réels.
C'est pas réel. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu.
Ben, c'est des films présentant une idée de ce qu'on s'imagine qui pourrait arriver dans l'espace.
Ouais, on s'imagine ce qui pourrait arriver dans l'espace, effectivement. Et donc là, alors, on a la version ce qui pourrait arriver dans l'espace en vrai, si on se posait les vraies questions, et puis ce qui pourrait arriver dans l'espace en faux. Plus ou moins. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Toi, tu as choisi un film, évidemment, c'est Star Wars.
Star Wars.
Donc, vas-y, raconte-nous un peu.
Bah, dans Star Wars, il y a des méchants qui veulent détruire la galaxie avec une grosse étoile noire.
Ouais.
Et il y a des gentils qui veulent arrêter les méchants et détruire l'étoile noire pour qu'elle ne détruise pas leur planète et les autres planètes.
Ouais, ok. Alors, est-ce que, à votre avis, ce serait possible? Qu'est-ce qui serait possible dans Star Wars? Les seules choses qui seraient possibles dans Star Wars?
Les sabres laser.
Non, ça, même ça, c'est pas possible. On peut même pas les fabriquer, les sabres laser.
Bah, d'être dans l'espace.
D'être dans l'espace, ouais, ça, ce serait possible. Est-ce que ce serait possible de marcher dans les vaisseaux comme ils font?
Non, ouais, ils marchent pas, ils volent.
Voilà, on est en apesanteur normalement. Donc ça, voilà. Est-ce que on pourrait voir les lasers?
Bah, non.
Non.
Ah, on pourrait pas.
C'est impossible.
Est-ce que...
La super vitesse aussi...
La vitesse lumière.
La vitesse lumière.
Oui, la vitesse lumière, le Faucon Millénaire, c'est pas possible.
Alors, non, pour l'instant, c'est... Est-ce qu'un jour, ce serait possible, à votre avis?
Bah, je pense.
On sait pas.
Peut-être.
Peut-être.
Ah, si c'est possible, la vitesse lumière, ça veut dire qu'on est complètement atomisé. On est désintégré,
bah oui,
en fait.
Bah, ah oui, bah non. Si à cette époque, on fait une vitesse lumière, on est totalement désintégré.
Ouais, c'est ça.
Mais avec le vaisseau.
Même dans les autres époques. Hein.
Qu'est-ce qui serait...
Si on arrive à trouver une protection mieux...
Essayez de me trouver un film... Là, on parle de Star Wars, mais ça peut être Les Gardiens de la Galaxie, ça peut être... Vas-y, cite-nous un peu les films qui...
Moi, j'avais mis Les Gardiens de la Galaxie, Avengers et Mars Attacks.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui serait... Les seuls trucs qui seraient possibles éventuellement dans ces films-là, en fait.
Mars Attacks.
Non, je veux dire en... Là, on a dit les sabres laser, c'est pas possible. Être dans des vaisseaux, ça, c'est possible. Qu'est-ce qui serait possible encore de faire dans l'espace dans ces films-là?
Il n'y a pas beaucoup de choses réelles. Hein.
Non, il n'y a pas beaucoup de choses réelles. Ça nous fait rêver en même
temps.
Que... Peut-être marcher sur des planètes sur lesquelles on pourrait respirer éventuellement.
Oui.
Mmh. Oui.
Ça, ce serait éventuellement possible. Avoir des espèces de
cellules
de formes de vie.
Oui, cellules.
Des formes de vie intelligentes.
Un peu bizarre. Voilà, comme Jar Jar Binks, par exemple. Peut-être que lui, il existe sur une planète. Peut-être. On ne sait pas. Tu voulais dire un truc, Warren. Ramène donc ta fraise.
Il y a quelque chose dans Star Wars qui existe. Enfin, qui est dans Star Wars.
Ouais.
Et qui est en projet, en cours, là.
On va voir un scoop.
Attention.
Alors.
C'est les bases militaires spatiales.
Ah, les bases militaires spatiales. Effectivement, ça, c'est possible.
Maintenant, il y aura la guerre dans l'espace.
Ouais. J'ai totalement oublié ce que c'est.
Et on peut dire, justement, là, tu fais rebondir sur un truc. Ça veut dire que, comme l'ISS, c'est possible de créer des structures qui flottent dans l'espace et d'aller les rejoindre pour vivre dedans. L'étoile noire, en plus petite échelle... En tout petit, comme l'ISS, par exemple, on pourrait faire une étoile noire de la taille de l'ISS. Ça, ce serait possible. On ne pourrait pas détruire la Terre, mais on pourrait détruire au moins un pays juste avec un tout petit satellite.
Ça, au moins, s'il y a au moins un pays qui veut faire la guerre, il peut détruire le pays qu'il veut.
Eh ouais, c'est celui qui a la plus grosse, comme on dit. Mais bon, ça, on espère que ça arrivera pas.
On espère que non.
Et...
Nathan.
Apparemment, sur Mars, il y aurait des formes de vie.
Ah.
Je sais.
Alors toi, tu dis oui.
Oui, j'en ai déjà entendu parler.
Mais ça existe pour de vrai ou pas alors?
Je pense.
Oui, oui, oui.
Apparemment, ils ont retrouvé des sortes de cellules vivantes encore.
Ah.
Et du coup, apparemment, il y aurait des formes de vie sur Mars.
Ok, on va attendre. Ah, Warren. Encore. Toujours la petite
encore
précision,
moi, ouais.
Le maître Capello de l'atelier.
Alors, en fait, la forme de vie qu'il y a sur Mars, c'est une expérience qui a été menée par des scientifiques internationaux, un truc comme ça.
Oui.
Et en fait, ils ont emmené des petites bébêtes qui survivaient à tout.
C'est les... Comment ça s'appelle?
Je sais plus. C'est des genres de petits scarabées.
Machin ropode, là. Ouais. Trucs qui survivent à 300 000 degrés.
C'est ça. Et ils les ont emmenés sur Mars. Au début, ils ont commencé à tous mourir. Et au fur et à mesure, ils ont vu que... Hop, ils commençaient à s'intégrer un petit peu au paysage de Mars. Et ils ont réussi à... évoluer dans Mars.
Oh.
Aujourd'hui, on sait qu'il en reste encore un petit peu.
Mm-hmm.
Et ce qu'il y a sur Mars aussi et qui attire l'œil des scientifiques, c'est qu'ils ont retrouvé de l'eau gelée sur Mars.
Ouais, alors ça c'est super important. Ça, mais on en
important.
A aussi sur la Lune, de l'eau gelée.
Oui, mais sur Mars, c'est des océans gelés.
Et oui. C'est pas pareil. Et donc, dans ces océans-là, il y aurait peut-être des traces de vie, mais on est en train de les chercher. Alors, on s'égare dans le sujet. On va rester dans les films et la manière dont l'espace est traité au cinéma avec Mademoiselle Anaé. On va passer le micro, s'il vous plaît. Anaé, vas-y, raconte-nous un petit peu tout ce que tu as trouvé comme information. Et surtout, toi, tu vas nous parler des extraterrestres dans les films, parce que ça, c'est super sympa aussi. Vas-y.
Dans les films, il y a des astéristes gentils, méchants, et il y a des astérestres.
Des astérestres.
Astérix.
Astérestres
qui nous prévient du danger.
Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme type d'extraterrestre?
Je sais plus.
Tu sais plus, t'as ta feuille mais tu sais plus.
j'ai pas écrit.
Ah, t'as pas écrit. Alors t'as mis quoi encore d'autre en dessous?
Après il y a un grand texte.
Ah bah vas-y, écris, raconte-nous le grand texte. Qu'est-ce que t'as écrit là?
C'est peut-être pour cette raison qu'on nous explique les choses de façon simplifiée. Mmh. Et hélas, il arrive parfois les choses de façon que ce qu'on imaginait sur ce sujet est tout simplement faux.
Mmh.
La preuve, avec notre vision du système solaire, si vous voulez en voir une représentation assez fidèle, vous pouvez regarder cette vidéo qui est un modèle.
Oh, tu nous as recopié un truc, toi, dis donc.
Assez, assez impressionnante. Avec la Terre de la taille
d'une
bille.
D'une bille, ok. Alors toi, tu as été faire des recherches sur Internet et je crois que tu t'es perdu.
Bah, c'est parce que j'ai pas eu assez de place, du coup, bah, j'ai recopié pas tout le
test.
Ouais,
mais attends, t'es parti sur les extraterrestres et tu me fais un truc complètement barré. Alors, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça qui fait que, justement, l'atelier, on apprend à faire de la radio, on apprend à écrire des chroniques, on apprend plein de trucs, à chercher des informations surtout. Et des fois, on se rend compte que, oh là là, mais c'est compliqué finalement. Mais c'est bien, t'as fait des efforts en tout cas. Alors, attends, on va revenir sur les extraterrestres dans les films. Tu nous as dit quand même des trucs super intéressants. Tu nous as dit il y a des méchants, il y a des gentils. Ceux qui sont méchants, forcément, à chaque fois, ils nous attaquent, les méchants. Mais ceux qui sont gentils, ils viennent et ils nous préviennent que, attention, vous êtes en train de faire des bêtises. Mais je crois qu'on avait parlé tous les deux aussi d'un film où c'est nous qui allons sur une autre planète et on attaque.
Oui, c'est l'Avatar.
Avatar. Est-ce que vous avez déjà vu Avatar?
C'est les hommes bleus, là, avec les grandes oreilles.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on y fait là-dessus, dans ce film?
Ils fabriquent des vaisseaux pour aller sur des planètes, non?
Ouais.
Ils se mettent dans des genres de capsules et ils se transforment en Avatar.
D'accord. Et c'est pour quoi faire, en fait, qu'ils font ça?
Pour échapper aux
aliens.
Oui, aux
extraterrestres.
Je me rappelle plus, je l'ai déjà regardé.
Ouh là là,
je me rappelle plus trop du film, ça fait assez longtemps que j'ai regardé.
Alors attends, il y a Keïsa qui essaye de dire.
Pour retrouver son père.
Alors ils font pas que ça, en fait ils se mettent en avatar pour ressembler à la population, pour ressembler aux extraterrestres qui viennent envahir. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des minerais précieux qui leur servent justement. Vas-y, continue.
Et même, il y avait un avatar qui a dit aux autres qui vivaient dans la forêt qu'il y avait des humains qui essayaient de les attaquer.
Voilà, c'est ça. Et ça vous rappelle pas une petite histoire un peu similaire avec ce qu'on a fait, nous, dans certains pays, par exemple?
Non.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler des conquistadors?
Des conquistadors?
Les conquistadors, ça vous dit quelque chose ou pas?
Non.
C'est des gens...
Oui, dans...
Vous savez, quand on a découvert l'Amérique?
Oui,
Okay.
Non, on a capturé des esclaves.
C'est Christophe Colomb qui l'a...
Oui, c'est...
Ouais, et Mathis, on a capturé des esclaves.
Christophe
et en fait...
Colomb, il a découvert l'Inde.
Ouais, en fait, il croyait que c'était l'Inde, mais il est tombé dans les îles d'Amérique.
Voilà. Et donc, quand on est arrivé en Amérique du Sud, on a envahi les Aztèques, etc. Et on leur a piqué leur or. On leur a pris leur or. On les a tués et on les a volés de leur or. Et c'est exactement la même chose dans l'espace avec des hommes bleus. C'est pareil, c'est la même histoire.
J'ai un exemple d'extraterrestre qui était gentil.
Ah oui?
E.T.
Ah oui, il est gentil, lui, E.T. Vous l'avez vu, celui-là?
Non.
Regardez-le, c'est un chouette film.
Non.
Non.
C'est pas un extraterrestre avec une grosse tête, non?
Ouais, si, il a une grosse tête.
Avec un front, là.
Alors, on va faire un petit jeu. Vous allez me citer un extraterrestre méchant, un extraterrestre gentil. On a eu Tila, donc vas-y.
Un extraterrestre gentil.
Alors, ça peut être dans des séries, ça peut être dans des dessins animés, c'est pas très très grave. Hein. Là, on peut partir dans ce qu'on veut.
Je crois pas que j'en connaisse, en fait.
Tu connais pas d'extraterrestre gentil ?
Non, et ni de méchant.
Ni de méchant non plus ? Ah si, attends, il y a des sacrés méchants. Hein.
J'en connais pas.
T'avais pas d'idée, là ?
Non.
Ah, là, vous m'en avez cité plein, et puis d'un coup, il n'y a plus d'idée.
Moi, c'est dans l'Avengers.
Avengers, ouais.
C'est la fille toute verte.
Ah ouais, alors c'est...
Elle veut prendre, je ne me rappelle plus, pour je sais pas quoi.
J'aime bien parce que vous regardez les films à moitié, en fait. Ah, c'est non, un méchant et un gentil. Et ils se battent.
Je l'ai regardé jusqu'au bout.
Eh ben alors, bah, tu te souviens plus.
Non, ça fait deux mois que je l'ai plus regardé.
En gentil, du coup, bah, y a E.T.
Ouais.
Et en méchant... Non, je sais plus.
T'as pas d'idée d'extraterrestre méchant ?
Non.
Un méchant ?
Non. Ah, Dark Vador !
Bah oui, c'est pas... Il habite pas sur la Terre, Dark Vador.
Puis en plus, t'as vu la tête qu'il a.
Il est dans une galaxie très très lointaine, il y a très très longtemps, donc il est pas de chez nous.
Ah oui. Ah mais ça, fallait dire plus tôt. J'en connais alors des extraterrestres.
Ah bah vas-y, tu nous les présentes ou quoi ?
Donc, vas-y. Bah oui, bah Maître Yoda, c'est un extraterrestre gentil.
Voilà.
Et du coup, Dark Vador, c'est un méchant.
Eh ouais.
Bah, moi, j'ai des gentils, genre Groot.
Ah ouais, Groot, il est super cool.
Vous appelez Groot.
Dark Vador, je s'appelle Groot.
Vous appelez Groot. Hein.
Plus d'idées ?
Non.
Ah, moi, j'en ai eu.
Ah, on a Mathias qui se réveille. Non, ça y est, il est reparti.
Stitch.
Stitch, alors il est gentil ou méchant, lui ?
Bah, au début, il est méchant et après, il est gentil.
Eh ouais,
c'est ça. Il est entre les deux.
Du coup, il est gentil.
Et Dark Vador aussi, il est entre les deux. Au départ, il est gentil et après, il devient méchant.
Ouais, mais quand il meurt, quand il meurt, il a une drôle de tête, par contre.
Ouais, bah oui, mais ça, tu verras quand tu vas mourir si tu fais pas une drôle de tête.
Il a une tête toute bleue, je crois, si je me trompe.
Ah ouais, mais il est enfermé dans son casque depuis 50 ans.
Bah, c'est lui qui a voulu. Hein. C'est pas lui.
Non, il pouvait pas faire autrement.
Bah, c'est lui. Hein.
Enfin bon, bref, en tout cas, ça fait débat, tous ces trucs-là. J'espère que ça vous a bien plu.
Ouais.
On a fait une belle émission, c'était sympa. Est-ce que vous avez un mot de la fin à rajouter ?
Je tiens à dire que c'était un excellent moment à partager des choses que les autres pouvaient découvrir aussi. Et puis voilà, j'espère que ceux qui écoutent cette radio Radar qui sont passés un bon moment avec nous.
Eh ben c'est cool, merci beaucoup Nathan. Alors il y en a encore une là, après j'en ai une derrière, vas-y.
Bah, merci déjà d'écouter cette radio.
Donc ça c'était Elina. Louane, vas-y, rejoins-nous, viens. Tu vas nous raconter un petit peu ton petite expérience, vas-y.
Alors moi ça m'a bien plu. Bah, donc du coup, la prochaine fois, j'ai essayé de parler à tout le monde.
Ah ouais, ce serait chouette.
Et du coup, bon courage à vous tous.
Ouais, c'est gentil. Merci Louane, c'était super. Mathis.
Bah, moi, je tiens à dire merci à tous les gens qui vous écoutent en ce moment. Et je vous souhaite bon courage pour la fin et merci de nous écouter.
Ben ouais, à bientôt. Nolan, tu veux rajouter un petit truc ? Non, ça y est, c'est fini. Et puis Miss Anaë ?
Ça m'a bien plu.
Ouais, c'était cool.
Oui.
Bon, super. Voilà.
J'espère que tout le monde a écouté.
Ouais, apprécié un petit peu tout ça. Ok, un dernier mot du côté de Keïsa ? Non, c'est bon ?
Non.
Toi, t'as fait ton tour aussi ?
Super.
Merci beaucoup à tous, en tout cas. On va reciter les noms entre rédaction et puis chroniqueur. Il y avait Audrey, Nathan, Louane, Elina, Mathias, Keïsa, Anna et Mathis et Nolan. Et puis, il y avait Warren pour m'aider aujourd'hui dans cette lourde tâche qui est de mener ces ateliers. Et Dieu sait si on a besoin de courage de temps en temps.
Tu m'as confondu.
Merci d'avoir été là, en tout cas, Warren, aujourd'hui. On vous souhaite bien la bonne journée à l'écoute des programmes de Radar. Et on se retrouve pour un nouveau podcast à partir de demain. Ciao, passez la bonne soirée. Salut.
L'atelier.
Moi, je dis rien, moi.
Il y en a à dire.
On apprend à faire de la radio sur Radar.
La
Atelier.
On fait du bricolage.
Wait. Hold it. L'atelier.